Et ce mag du Tarn-et-Garonne avec Claude Sicre, le docteur Cachou. Bonjour Claude.
Bonjour madame.
Votre pseudo pour les Fabulous Troubadours notamment. Vous êtes musicien.
Oh, ça, c'était un pseudo il y a très ancien. C'était les jeunes rappeurs qui me le donnaient parce que.
Mais ça colle encore.
On a commencé un peu avant le rap. Quand les rappeurs ont commencé, ils sont venus nous voir et tout ça. Et comme moi j'avais 15 ans de plus qu'eux, j'avais des lunettes et que je parlais savamment de certaines choses et que je chantais une chanson rigolote sur les Cachous la Jaunie, ils m'appelaient Docteur Cachou, c'était rigolo.
Cachou la Jaunie, c'était les Fabulous Troubadours. Donc Claude Sicre, vous êtes musicien, écrivain, philosophe, spécialiste des musiques traditionnelles occitanes. Vous avez quelque chose à fêter un peu partout en France, l'adoption de la loi Molac, qui les parlementaires qui viennent d'adopter définitivement cette loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales à leur promotion. On va voir si c'est vraiment une bonne nouvelle, mais je crois que c'en est une quand même. Et puis on va aussi parler dans le cadre de l'Universitat Occitana de la Gepia, qui se tiendra du 18... La Gepio, pardon Claude, je le ferai
c'est
à chaque fois.
C'est pas grave, c'est pas une correction, c'est juste pour une indication.
Ah, on vous entend un peu de loin quand même là, mais j'en profite pour dire que ce sera...
Je vous corriger, c'est juste pour vous indiquer.
Du 12 au 18 juillet cet été, un concours d'histoire de pêche et de chasse en Languedoc. On lancera l'invitation après avoir parlé donc de cette loi Molac. Claude Sicre, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Vous avez fait la fête toute la nuit ou pas?
Bah, la loi Molac, c'est très bien, c'est une avancée. Il y avait longtemps qu'il n'y avait pas eu de loi, je crois depuis 1953, je crois. C'était la loi d'Exon. Et donc, c'était d'ailleurs d'Exon, c'était un député du Tarn-et-Garonne, je crois. Oui, je crois bien, oui. Enfin, de parler, en tout cas, du coin. Et voilà, bon, le gouvernement, les différents gouvernements font semblant tout le temps de vouloir faire des choses, et ensuite, dès qu'ils ont fait quelque chose, ensuite ils mettent tout en œuvre pour que ça marche le moins possible.
Bon, concrètement, on a d'autres avancées quand même là, de par l'adoption de cette loi. L'enseignement immersif dans le public n'est plus relégué à un statut d'expérimentation, tel que mentionné aujourd'hui dans la convention ministérielle. Et puis, l'instauration du versement de forfaits scolaires au bénéfice des écoles associatives immersives. On a aussi un peu plus de toponymie concrètement occitane qui sera affichée sur nos panneaux.
Oui, non, mais c'est vrai. C'est une avancée, cette loi. C'est bien. C'est bien. Après, ce que je dis, moi, c'est que les différents gouvernements, il y en a qui ont avancé plus que d'autres. Jospin, il avait avancé plus que d'autres. Mais enfin, les différents gouvernements, depuis 1953, ils font des lois, mais après, sur le terrain, tout est bon pour les appliquer le plus modestement possible. Il y a deux ans, ils supprimaient des postes ici, partout, ils supprimaient des postes. Nous, on s'est bagarré pour pas qu'ils suppriment celui de Saint-Antonin.
Là. Alors, on parle d'enseignement, l'enseignement scolaire.
Il faut penser que c'est jamais un aboutissement. Hein. Faut être très, 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 très méfiant. Hein. D'ailleurs, cette passion subite pour les langues régionales de la part du gouvernement me semble extrêmement suspecte. Disons, je pense qu'il y a des sous-entendus électoraux qui sont électoralistes, qui sont très forts. Mais enfin, bon. On a vu qui c'est qui a voté pour, on a vu qui c'est qui a voté contre, donc ça donnera une idée aux gens de ce que font les députés. En tout cas, c'est très bien.
Claude, vous râlez, mais dites-nous en plus.
Voilà, on espère que ça... Mais il faudra que les gens se battent pour qu'elles soient appliquées partout comme il faut et qu'il n'y ait pas... Ensuite, telle restriction et telle restriction et telle restriction.
Alors, la loi, elle sert quand même avant tout à donner des fonds et puis des autorisations, à soutenir en fait l'engagement des occitanophones convertis.
Ouais. Bien sûr.
Et du coup, vous êtes là, vous, pour appliquer ce qui est proposé et puis même plus?
Ah oui, moi je suis très très très... Je suis très 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 favorable, bien entendu. Je m'agite pour ces lois et pour leur respect quand je peux. Oui, bien sûr, non, je suis très 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 favorable, je dis que c'est très bien. Après je sais voilà, je sais qu'il faut que c'est jamais fini quoi, il faut toujours voilà, c'est la politique quoi.
Parlons association aussi dans ce mag du Tarn-et-Garonne avec l'Universitat Occitana de la Guépio. Du 12 donc au 18 juillet, ce sera à la Guépi, pardon, hein, la Guépio quoi.
Oui, oui, non, mais tu peux dire, vous pouvez dire la Guépi en français. Hein. C'est mieux que de dire la Guépia ou la Guépio, parce que en fait, il y a un accent tonique en occitan. C'est comme en italien, en espagnol, en anglais, en toutes les langues. Il y a un accent tonique, on dit donc la Guépio. La Guépio. Pas la Guépio, on n'insiste pas sur la dernière syllabe et sur le haut. Alors, la guépi.
Je vais essayer de faire un effort, ou alors je ne prononcerai plus jusqu'à la fin de...
Vous pouvez dire la guépi, c'est très bien.
Ce sera la combienième édition de ce festival ?
Oh, je me demande si ce n'est pas la 20e. Hein. Mm. Je pense que c'est à peu près la 20e, ouais. Moi, je ne suis pas fan des anniversaires, je ne fais pas les anniversaires trop, mais je ne compte pas les anniversaires, mais je crois que c'est à peu près, ouais, ça doit être à peu près la 20e. Mais moi, je suis responsable que depuis 6 ans. Ce sera la 7e année. Avant, c'était un garçon d'Arnac là, qui s'appelait Alain Reynal, qui était responsable de l'université. Et puis, quand il a pris la retraite, tout ça, il est parti du coin en même temps. Il voulait en passer. Et puis, le maire de la Guépi, il ne trouvait personne. Le maire de la Guépi est venu me voir. Il savait que je m'étais installé. Il connaissait mon nom. Et il savait que je m'étais installé à Saint-Antonin. Il m'a dit... Ah, il faut la sauver, cette université, alors voilà. Alors je l'ai pris pour la sauver, mais je ne pensais pas y passer tout ce temps, parce que j'ai beaucoup d'autres boulots, ça me prend beaucoup de temps, mais bon, finalement, je suis quand même content de le faire, même si ça me...
Et le résultat prouve en tout cas, le monde qui vient démontre qu'il y a des gens pour se préoccuper de cette langue, de cette culture, de ces traditions, ce qui revient à nos félicitations.
Ah oui, maintenant, mais il y a le... Je dis pas le sens de l'histoire parce que je ne suis pas marxiste, mais il y a le vent un peu de l'histoire. Moi, je suis convaincu depuis très 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 longtemps. Moi, bon, vous savez, je suis venu. Je suis d'ici, évidemment. Je suis d'ici. J'ai entendu mes grands-parents parler ce qu'ils appellent le patois. Mes parents, en français, ils avaient des expressions occitanes et tout ça, mais moi, j'ai jamais parlé. J'entendais à la campagne, quand j'allais à la campagne, ça, j'entendais un peu tout ça. Et après, moi, il a fallu que je fasse le tour par, bon, évidemment, la culture classique française, parce que j'ai eu de la chance d'aller au lycée, parce que j'étais bon élève, j'étais une famille ouvrière, mais dans ma classe, on était 28 ou 30 en primaire, pour moyenne 2, on a été 3 d'aller au lycée, 3 qui sont allés au lycée, ou 2 même, un fils d'instituteur et un autre, puis moi. Et moi, de ma cité, de mon quartier, tout ça, j'étais le premier à aller au lycée. Jamais personne dans ma famille n'était allé au lycée. Donc je suis allé au lycée, au grand lycée de Toulouse. Et donc j'ai étudié la culture classique française et tout ça. Et puis je me suis passionné pour la culture nord-américaine. Et c'est en revenant des États-Unis que je me suis dit qu'il fallait s'intéresser à son pays, quoi, vraiment. Et là, je suis devenu occitaniste. Voilà, je pense qu'il y a un vent pour tout le monde, parce que dans tous les pays du monde, moi j'ai beaucoup voyagé pour la musique, tout ça, puis même pour mes trucs d'organisation, le Forum des langues de Toulouse ou Peuple et musique cinéma, tout ça. J'ai beaucoup voyagé dans le monde, et ce que j'ai vu, c'est que partout, les peuples, ils se retournent sur leur patrimoine. C'est pas qu'ils se replient, au contraire. Ils s'ouvrent parce que en fait, ils connaissaient leur patrimoine, ils connaissaient des choses, mais ils n'en connaissaient pas l'histoire, parce que l'histoire, tout ça, elle était recouverte par les histoires des grands États ou des empires.
Alors, je vous coupe, Claude, pardon, pour dire
qui truquaient leur histoire.
Et justement.
Là, quand on découvre la littérature occitane, par exemple, on découvre l'histoire de la France de façon et de l'Europe totalement différemment. On voit des choses qui n'ont jamais été vues. En fait, c'est c'est un outil, s'intéresser à la culture occitane, c'est un outil de grande intelligence de la France, de ce que nous sommes, de notre culture.
Et c'est une culture qui ne s'apprend pas nécessairement dans les collèges, dans les lycées, c'est une culture qui est accessible à tous et on n'est pas obligé de passer par les bancs de l'université, c'est ce que vous disiez. Alors vous avez eu la chance de le faire, mais ça ne veut pas dire que les détenteurs de la culture occitane se sentent intelligents, se sentent cultivés, et c'est ça qu'il faut essayer de mettre en valeur. Alors vous proposez notamment à travers ce festival Lingua Viva Bibo, Lingo Bibo quoi, Lingua Viva, oui, ça s'écrit comme ça, de découvrir cette culture et puis vous incitez surtout les locuteurs occitans, ceux pour qui cette langue est la langue maternelle, à venir se déplacer, à venir nous enseigner un petit peu des petits bouts de cette culture. Claude, on va reparler après la musique.
CFM en Tarn-et-Garonne. Le MAG.
De retour dans le MAG du Tarn-et-Garonne, on est avec Claude Sicre, Saint-Antoninois et spécialiste des musiques traditionnelles occitanes, pour fêter aujourd'hui l'adoption de la loi Molac, mais aussi proposer le programme des festivités pour cet été. Du 12 au 18 juillet, ce sera l'Université Occitane de la Guépi, que je ne vais même pas essayer de prononcer à l'occitane, avec notamment un concours d'histoire auquel on peut déjà s'inscrire et qu'on peut préparer. Des histoires de pêche et de chasse en langue d'oc, Claude.
Ouais, alors vous avez dit avant que voilà qu'il y avait on faisait appel. Ce qui est très important, c'est que avec la langue et la culture occitane, c'est qu'en fait on se rend compte qu'on a besoin des anciens, et souvent des anciens qui sont des classes populaires, c'est-à-dire surtout les gens de la campagne, des ouvriers, des employés. On a besoin d'eux parce qu'en fait ils ont un trésor. Mais ce qui est triste, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils ont un trésor. Ils ont un trésor parce que dans leur langue, à travers leur langue et leur manière de parler, de penser, ils ont un trésor qui remonte à l'Antiquité. Ils ont gardé des formes pré-latines de certaines choses. Par exemple, la différence entre les mots. Par exemple, quand on passe de Caussade à Villefranche de Rouergue, dans les campagnes, au lieu de dire Douma, par exemple, pour dire demain, on va dire démo. Mais ça, c'est pas la lubie des gens qui vont dire on va déformer la langue pour nous. C'est pas ça. Ça vient de peuplement de tribus celtes qui existaient avant la colonisation latine. Et c'est qui a fait que tel mot, ils gardent, ils le prennent comme ça. Moi, mon voisin, une fois, il m'a sorti il y a pas longtemps un mot de latin, un mot en occitan. Moi, je le connaissais parce que j'ai fait du latin. C'est un mot rare en latin. Et lui, bon, ben, en occitan, il se disait toujours avant. Donc, il y a des mots grecs aussi. Bon, alors, ces gens, ils ont un univers, un trésor qu'ils ne connaissent pas. Pour eux, c'est normal de l'avoir. Et nous, il faut qu'on se penche sur ce qu'ils disent. Et qu'on en comprenne et que leur fasse comprendre aussi le trésor qu'ils ont, et on a besoin d'eux. On a besoin d'eux parce qu'ils ont un trésor. Alors, donc on s'intéresse beaucoup aux gens qui ont conservé ces parlers. Et en même temps, on s'intéresse aux choses extrêmement savantes en linguistique, en sciences du langage, en sciences de l'histoire et tout ça. Moi, j'invite à l'université de la Guépi, j'invite des très très grands savants des fois. Et que je mets en lien avec des gens de mon de la Guépi ou des gens de Saint-Antonin ou du coin qui parlent bien. Moi, il y a des linguistes internationaux qui sont venus prendre des notes à des conversations que j'avais organisées entre paysans du coin ici. Voilà, c'est extraordinaire.
C'est une langue orale.
C'est extraordinaire.
D'où le concours d'histoire.
Pardon, je vous entends plus là.
C'est une langue orale, d'où le concours d'histoire peut-être.
Alors, c'est pas une langue orale, l'occitan, c'est une langue orale comme toutes les langues. Mais il y a une très très grande littérature en occitan. Ce qui est dommage, c'est que les gens la connaissent pas. Mais il y a une très très grande littérature de valeur européenne et mondiale en occitan. D'ailleurs, les troubadours, par exemple, bon, c'est les plus grands. Ils ont influencé, une influence considérable sur la littérature française qui a suivi, mais aussi sur les littératures européennes, sur l'anglais, sur l'allemand, sur l'espagnol, sur le portugais, le galicien, sur l'italien bien sûr, sur le roumain, et même sur le hongrois. Au Moyen-Âge, les troubadours, ils ont eu une influence européenne. C'était les stars musicales et les stars poétiques du Moyen-Âge, partout, pendant deux siècles. Ils ont eu une influence considérable. Mais ça, ce qui est dommage, on ne l'apprend pas. On l'apprend pas à l'école. Parce que on l'apprend pas à l'école parce que c'est une langue. Il y a une espèce de jalousie que les grands poètes et les grands écrivains du Moyen-Âge, c'est d'abord été des gens en Languedoc. Alors ça ennuie certains. Ça les embête que pour la construction de la France, que les plus grands poètes du Moyen-Âge, et leur donc l'origine de la poésie française en grande partie, ne soient pas en français. Ça les gêne. Alors ils l'écartent un peu. Bon, des fois, ils sont ignorants. Il y en a beaucoup, même des professeurs de collège et tout ça, j'ai vu. Ils sont d'une ignorance, mais c'est pas leur faute. C'est parce que c'est le système comme ça. C'est la faute à personne. Hein. Mais des professeurs d'histoire, des professeurs de littérature, ils savent, des fois, ils savent rien. Mais c'est le système qui les a mis comme ça. C'est pas, ils sont pas plus bêtes que les autres, mais ils sont pris dans un système.
Claude,
les agriculteurs, ils savent plus qu'eux, mais...
D'où le concours d'histoire, pardon, alors là j'insiste, hein. On tourne autour du pot depuis 16 minutes maintenant à propos de ce concours d'histoire.
Alors ce concours d'histoire, mais justement le concours d'histoire, c'est un concours d'histoire drôle mais ou moins drôle, c'est-à-dire que les gens peuvent raconter des histoires tristes s'ils arrivent à nous faire pleurer, mais c'est surtout des blagues, et alors là je vais mettre en contact des gens qui racontent des histoires très rigolotes de base, mais avec des gens qui... Pour raconter ces histoires rigolotes et tout ça, ont une utilisation de langue très intelligente, très savoureuse, et très travaillée. Vous savez, pour raconter une blague, c'est difficile. Hein. Il y a des gens qui savent le faire, d'autres qui ne savent pas le faire. Hein. Et puis il y a des blagues plus ou moins intelligentes et tout ça. Donc moi, je mets en rapport des gens savants ou pas savants, et devant le fait de raconter une blague dans la langue. Voilà. Et des fois, il y a des gens qui sont très, très, très savants dans la langue, qui savent pas, et qui connaissent tout, qui savent l'expliquer, mais qui savent pas raconter une blague simple, vous voyez. Chacun doit s'éduquer avec l'autre. Hein. Voilà. Voilà. Il y a un prix de 500 euros pour le premier prix.
Et pour le deuxième et troisième, des livres, des disques et des surprises, oui, ça aura lieu.
Des livres, des disques, des repas au restaurant, des choses comme ça. Mais le premier prix, c'est 500 euros. Ça, on l'a fait en 2014, 2015, 2016. On a arrêté en 2017, je crois, parce que j'avais pas assez de gens qui nous aidaient là, sur place, donc c'était un peu difficile, mais cette année...
Ce sera le 18 juillet, et puis on peut déjà s'inscrire, ou s'inscrire le jour même, hein, le 18 juillet, mais d'ores et déjà...
Oui, on peut s'inscrire.
Sur voilà. Universitat.
Et là, c'est 500 euros, mais... J'ai trouvé des mécènes, là, qui, si le truc marche, si le concours marche, ils mécèneront le prix, ce qui fait que, je l'avais déjà promis, mais bon, il faut du temps pour tout, hein, ce qui fait que le prix va monter. D'année en année, le premier prix va monter. J'aimerais bien arriver à premier prix 10 000 euros. J'aimerais bien arriver dans quelques années.
Mais oui.
Eh oui, bah, 10 000 euros pour raconter deux blagues en occitan, ça serait bien, non?
www.
Ça fera des émules au moins.
.lingovibo.com, alors Linga Viva. Pour, pardon, hein, Claude Sicre, donc, qui co-organise ce festival à l'Université Occitane de la Guépy pour cet été. Concours d'histoire de pêche et de chasse en
Languedoc. Oui, parce qu'on voulait faire, on fera peut-être un concours de pêche. Sur l'Aveyron, sur le Vior. Et enfin, l'Aveyron et le Vior, c'est pareil, parce qu'en fait, on appelle le gorge de l'Aveyron, mais en fait, c'est le Vior, surtout. Enfin, bon, peu importe. Et on voulait organiser un concours de pêche, mais là, la personne qui voulait nous aider est malade, mais enfin, bon, on va essayer de le faire quand même. Et on a dit, donc, on va partir de concours de chasse et de pêche, de blagues sur la chasse et la pêche. Il y a des trucs très rigolos sur la chasse et la pêche, très... Des trucs très marrants, on va se marrer.
Ça sera pour cet été. Merci beaucoup. Claude Sicre, le prolifique Claude Sicre, invité de ce magazine d'actualité d'aujourd'hui.
À cet été. Saluer tous les auditeurs de ma,
Faites-le.
De ma part.
Faites-le vous-même.
Ouais, alors je salue tous les auditeurs, pardon. Oui, c'est vous qui peux le dire, oui, parce que je suis. Voilà, je salue tous les auditeurs et je les invite à venir s'ils ont envie.
Merci Claude.
Avec plaisir, madame.
Et les infos pour tout de suite. C'est Maguette à retrouver en podcast sur CFM.